L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Bonjour Bernard Vacherot. La semaine dernière, vous attaquiez un gros chapitre. C'est pas raisonnable.
Ouais. Tout d'abord, salut à toi, mon cher ami.
Ça va bien ?
Eh oui, et salut à tous nos amis qui nous font la joie et l'honneur de nous bien vouloir nous écouter.
Alors, dans votre ouvrage, parce qu'il faut bien le dire, ce que vous nous faites en radio, en fait, c'est un ouvrage que vous écrivez. Hein.
Oui.
Vous entamiez tout un chapitre.
Ah, tout à fait. Tu as bien raison de parler d'ouvrage. Ça, c'est le tome 2. Ça va pour le moment jusqu'au tome 8. Où je vous parlerai alors davantage des raisons pour lesquelles de nombreux religieux ecclésiastiques de haut grade ou des moines sont entrés dans les loges maçonniques au XVIIIe siècle. Mais nous sommes encore au XIIe et XIIIe siècle, nous avons quelques époques à franchir.
On n'a pas encore inventé l'imprimerie. On a encore des moines copistes pour transmettre le savoir livresque.
Tout à fait.
On est quand même déjà dans des langues vernaculaires. On travaille en latin à partir du grec ou de l'arabe, et réciproquement, mais on n'a pas encore de langue d'oil, ni de langue d'oc.
Non, mais toutes les langues, telles que par exemple le grec ou l'arabe, sont transcrites en latin, enfin les textes, à l'usage des occidentaux. Évidemment, pas à l'usage des orientaux. Là, c'est clair. Hein. Voilà. Quoique les maronites, par exemple, les religieux maronites et les religieux byzantins savaient parfaitement le latin. Hein. Alors, moines et religieux ont été présents au Moyen-Âge dans la lutte contre les hérésies. C'est un chapitre très difficile à aborder. Alors, moines et religieux, quels furent leurs rôles et quelles furent leurs actions durant le Moyen-Âge, ce en tenant compte des particularités propres à chacun des deux modes de vie religieuse, cénobitique, avec moines et monial, plutôt contemplatif ou orienté vers la vie rurale, d'une part, ou bien des religieux du type plutôt missionnaire, prédicant et donc menant une vie partagée entre le cloître et l'apostolat extérieur au contact du monde profane. La question se pose, car chacun d'eux furent impliqués, d'une manière ou d'une autre, dans cette lutte, mais avec des modalités différentes, selon le cas et circonstances, et surtout selon leurs propres orientations spirituelles et intellectuelles originelles. Au regard de la théologie, qu'est-ce qu'une hérésie ? Qu'est-ce qu'un hérésiarque ou un hérétique ? Étymologiquement, le terme d'hérésie vient du grec aérésis, qui veut dire choix en grec littéraire, alors pas en grec religieux. Au sens propre, il s'agit d'un choix qui est par lui-même un refus volontaire du genre négation d'une ou de plusieurs affirmations dites de foi. La théologie sépare bien les affirmations de foi avec d'autres. Sont donc considérés comme hérésiarques ou hérétiques ceux et celles qui font volontairement et en pleine connaissance de cause le ou les choix de ces textes de refus d'affirmation dite de foi. L'hérésiarque est celui ou celle qui non seulement refuse cette affirmation de foi, et qui, de surcroît, se fait le ou la propagandiste de ce choix de refus, qualifié d'erreur par les théologiens et par les dogmaticiens. Quant à l'hérétique, différence de mot, hein, au sens propre du mot, il ou elle ressemble, oui, à l'hérésiarque, mais par extension, ce terme désigne celui ou celle qui, indépendamment d'une culpabilité personnelle, refuse tel ou tel dogme. On s'oriente donc ainsi davantage vers la dogmatique que vers la théologie. On parle d'ici d'hérétique de bonne foi. L'hérétique de bonne foi est une proposition opposée à la foi enseignée par l'Église. Pour préciser notre investigation, éclaircissons ce que théologiquement on appelle dogme, dogmatique, article de foi. Dogme. Le terme de dogme a pour origine étymologique celle de dokeo, qui en grec littéraire ancien signifie paraître, penser, croire. Ici, l'interprétation qu'en a retenue l'Église est celle impérative de croire. Cette conception impérative du sens à donner au terme grec est due à l'idée chrétienne qu'une vérité de la foi est contenue dans la révélation telle que l'Église la présente par l'enseignement du magistère ordinaire et universel, dogme de foi, ou par le magistère extraordinaire, c'est le dogme de foi défini. La dogmatique. La dogmatique est un terme qui désigne les mêmes, qui a les mêmes origines étymologiques grecques que celles de dogme, puisque ce terme se rattache théologiquement parlant à ce mot. Récemment, fut créée une division purement théologique et pas très clairement définie, désignée sous le terme de théologie dogmatique, distincte de la théologie morale. Dire que cette recherche théologique, dont le contenu varie au gré des diverses formes de théologie, est des plus ambiguës, relève du pléonasme et pourrait illustrer la phrase de Voltaire « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu ». Dogmatisme. Attitude de ceux ou celles qui, se référant à un système de vérité étroitement comprise et acceptée, s'en servent pour donner des réponses à toute question en méconnaissant plus ou moins volontairement la complexité ou les contingences des questions posées. En philosophie, on connaît le dogmatisme moral qui tente d'exprimer et de légitimer la certitude par l'action et se distingue ainsi du dogmatisme intellectuel. Si le dogmatisme, comme attitude étroite, remonte aux origines de l'histoire humaine, le dogme, au moins, au sens exclusivement chrétien du terme, remonte-t-il aux questions du christianisme C'est une question qui se pose. Dans les sources juives du christianisme, il n'y a pas, à proprement parler, de dogme comme on l'entend en théologie chrétienne, mais une ou des vérités à croire, car dictées par Yahvé Dieu lui-même aux hommes. L'enseignement des rabbins veut qu'il y ait à la base du monde vérité, justice et paix. La vérité est dictée par Dieu dans la Torah, et pour le christianisme, le plus ancien contenu ou ensemble de dogmes est celui des deux credos ou symboles. Dès le IIe siècle, face aux diverses hérésies d'alors, il fut nécessaire d'élaborer des symboles ou credos contenant les vérités de la foi chrétienne. Puis vint le symbole de Nicée, ou Iznik en Turquie, contenu en 325, et celui de Constantinople, ancienne Byzance, devenue Constantinople sous l'empereur Constantin Ier le Grand, qui en 313 ou 317, là, il y a bagarre des historiens, libéra le christianisme et en fit de l'ancienne Byzance sa capitale, lui donnant son nouveau nom, pris sur surnom à lui, Constantinople.
Et un jour, ça sera Sébastopol. Mais en attendant,
oui,
3 minutes de musique.
Ok, mon ami.
CFM. Constantinople, parce que empereur Constantin. Bah oui, c'est une question bleue du jeu des mille, ça. Question blanche, quel est l'ancien nom de Constantinople?
Tout à fait, mon cher.
C'était Byzance, d'accord.
Ben, Constantinople, il y a eu donc ce fameux concile, mais il y en a eu d'autres. En 553, en 681, en 681, un an après, en 869, 870. Le symbole dit de Nicée-Constantinople est la synthèse des enseignements de ces deux conciles, tenus donc en 325 pour l'un et en 381 pour l'autre. Ce symbole ou credo entra en usage en Occident sur ordre de Charlemagne en 794, peu avant qu'il soit empereur d'Occident en l'an 800. Initialement, ce symbole ou credo ne comportait pas le filioque, affirmant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Affirmation ajoutée par l'Église d'Espagne visigothique, puis reprise par l'Église de Gaulle sous Charlemagne. En fait, ce fut au Concile de Nicée II, tenu en 787, que fut adoptée la formule « qui procède du Père par le Fils ». Formulation reprise en 1439 par le Concile de Florence et qui servit dans les relations entre Rome et les Églises d'Orient. Actuellement, le symbole dit de Nicée-Constantinople ne dit pas « qui procède du Père par le Fils », mais « il procède du Père et du Fils ». Même chose pour les liturgies de Saint Jean Chrysostome, vers 350-407, et Saint Basile de Césarée, vers 330-379, ainsi que dans la liturgie syro-maronite des 4e et 8e siècles, avec au début Saint Maron, puis Saint Jean Maron. Rome l'incorpora en sa liturgie en 1014. D'autres symboles existèrent. Ce furent principalement le symbole d'Athanase, vers 430-500, le symbole de Tolède, en Espagne, en 675, et les professions et confessions de foi de Latran IV, en 1215, auxquels on peut rajouter ceux du pape Pie IV, ou Tridentin, en 1564, et le credo du pape Paul VI, en 1968. À ceci, on peut encore ajouter ceux de la Réforme, ou profession de foi d'Augsbourg, en 1532, et d'Écosse, en 1560. Quant au symbole dit des apôtres, il est issu des anciennes catéchèses baptismales du IIe siècle, remontant donc à la catéchèse baptismale du IIe siècle. Le symbole des apôtres reçut son nom de Saint Ambroise de Milan entre 340 et 397. Et devint obligatoire pour les catholiques dans le catéchisme romain dès 1566. Actuellement, il est en vigueur dans les églises de la Réforme. Donc, les dogmes essentiels sont contenus dans ces deux symboles, celui de Nicée-Constantinople et le symbole des apôtres. Alors, confère à ce sujet l'excellent ouvrage de François Bluche, intitulé « La foi chrétienne, histoire et doctrine » aux éditions du Rocher, 1996, page 263. Quant à lui, le terme d'article de foi désigne ce qu'on appelle la vérité révélée, que contient chacun des articles des symboles ici précités. Alors, confère à ce propos la Summa Theologica de saint Thomas d'Aquin, commencée en 1267, poursuivie en 1269 et 1271-72, reprise en 1274, mais restée inachevée du fait de sa mort cette année-là, et poursuivie et achevée par son grand ami Reynald du Piperno, ces articles de foi rassemblent la substance de ce qu'il faut croire et ont pour la foi valeur de principe formant un organisme hiérarchisé en lequel certains, comme la majesté de Dieu et l'incarnation rédemptrice, sont parmi les premiers par rapport aux autres. Les définitions de la scolastique ne sont pas articles de foi. Moine et monial, religieux et religieuse, eurent donc à méditer, étudier théologiquement ce qui devait être considéré comme dogme ou comme article de foi et à les enseigner ou apporter leurs critiques argumentées de théologiens. De ce fait, ils furent choisis comme interrogateurs et juges pour les questions d'hérésie et d'hérésiarque. Ce fut surtout les dominicains qui furent affectés à ces rôles durant les procès de l'Inquisition, dont la première fut instituée par le pape Innocent III, pape de 1198 à 1216. Cela marqua un tournant important dans les recherches et études théologiques des moines et moniales, comme des autres ordres religieux, tels que les dominicains, qui eurent de ce fait à affronter d'autres champs de recherche spirituels et théologiques et investigations philosophiques et intellectuelles pour apporter leur lumière sur ces questions et aux réponses à y donner pour ceux et celles qui furent ainsi concernés, comme les hérésiarques ou les hérétiques, et ne pas donner suite à leurs hérésies.
Hop, 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 hop. Tout à l'écoute de ce que vous racontez, j'avais pas vu l'heure.
Eh oui, mon pauvre ami.
Faut terminer aujourd'hui.
Moi non plus, d'ailleurs. Je suis tellement heureux d'être parmi nos amis auditeurs que je ne vois pas l'heure.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Bernard.
D'accord, mon ami. À bientôt.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.